France Inter.
Aujourd'hui, pour l'amour des cochons, raconté par
Caroline Dubois, cofondatrice du refuge Groingroin.
Et Jean-Baptiste Delamo, écrivain.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Joël écrase sa cigarette dans l'un des bidons remplis de sable qui font office de cendrier à l'arrière des bâtiments. Malgré le système de ventilation, la chaleur à l'intérieur de la porcherie est déjà éprouvante. Il boit au tuyau d'arrivée d'eau et se passe la tête et le visage sous l'eau avant de retourner au nettoyage des enclos. Il lui arrive de se demander si la porcherie a enfanté leur monstruosité ou si ce sont eux qui ont donné naissance à celle de la porcherie. Cette viande de porc qu'ils ingèrent aussi depuis toujours plus par économie que par goût, et dont leur congélateur déborde, Joël ne l'a jamais aimé. Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas terminé ton assiette. Tiens, je t'en remets une louche. Il faut manger si tu veux devenir un homme et pas rester une demi-portion comme t'es. Tandis que Serge a toujours mis, lui, un point d'honneur à la dévorer, à lécher le fond de l'assiette, à ronger les os, à aspirer le jus, à quémander une deuxième ration pour satisfaire leur père. Et sans doute est-ce ici, à cet instant de l'enfance, que leur différence s'est affirmée. Dans cette obstination de l'un à engloutir la viande des porcs, à assimiler littéralement leurs conditions et l'existence de la porcherie, et cette réticence de l'autre, cette répulsion viscérale, primitive, à l'idée de n'être qu'un rouage mâchant, digérant la chair que l'élevage déverse dans leurs bouches grandes ouvertes, fières, reconnaissantes, rassasiées, puis mâchant, digérant, chiant cette chair qui sera de nouveau épandue sur la terre grasse des plaines, avec les boues savamment transformées par la station d'épuration municipale, mélangée au lisier des bêtes contaminées par les produits qui leur injectent et leur font ingérer, puis qu'eux-mêmes ingèrent à la suite des bêtes, pour servir d'engrais aux céréales qu'ils font pousser et donnent à manger aux porcs, créant ainsi un cercle vertueux ou infernal dans lequel la merde et la viande ne sont plus dissociables. Caroline Dubois et Jean-Baptiste Delamo, bonjour.
Bonjour.
Le texte que je viens de lire est extrait, Jean-Baptiste Delamo, de votre ouvrage « Règne animal » qui a reçu en 2017, entre autres, le prix du livre Inter et qui retrace la vie d'une lignée d'éleveurs de porcs sur 5 générations. Est-ce que d'abord vous pourriez nous raconter tous les deux comment les cochons sont entrés dans vos vies respectives, Caroline Dubois?
Oui, c'était il y a maintenant plus de 20 ans. J'étais en vacances et je visitais un château et une dame apprenait dans un parc un cochon à répondre à son nom. Donc je me suis intéressée à la question, ça m'a fait rire. Pour les mauvaises raisons, j'ai dit que ce serait sympa d'en avoir un chez moi. Et de là, ma vie a changé.
Et vous en avez eu un chez vous après ?
Oui, j'en ai eu deux après, pendant une vingtaine d'années, qui ont vécu à la maison comme mon chien ou mon chat. Tout
et
à fait.
Et votre refuge, alors, il est né à quel moment dans
Il
tout
est
ça
né 2 ou 3 ans après, une fois que voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la question, partager les informations que je pouvais recueillir sur ces animaux pour que les familles comme moi, qui avaient des cochons de compagnie, entre guillemets, puissent savoir comment s'occuper d'eux, et on a décidé d'avoir un refuge parce qu'il y avait beaucoup d'abandon pour le temps de replacer les animaux. Tout a commencé comme ça.
À Neuvillette en Charny, hein.
C'est ça, en Sarthe, tout à fait.
C'est près du Mans. D'où viennent d'ailleurs les cochons qui sont là sur vos 17 hectares?
Alors en fait, il y a vraiment autant d'origine que d'histoire d'animaux. Vous avez des saisies qui sont faites par les services de la préfecture, gendarmerie, etc. Mmh. Des cas d'abandon, des cas de maltraitance. Vous avez des salariés d'élevage qui vont aller sauver un animal en particulier parce qu'ils sont attachés à lui pour X raisons. Et puis voilà.
Et actuellement, vous avez combien de cochons chez Groingroin?
Alors actuellement 44, et on est monté jusqu'à 50, mais on a des animaux qui sont un petit peu âgés maintenant, donc ouais. On a eu quelques départs.
Et a priori, ce sera leur dernière demeure, ou vous pouvez aussi appeler à l'adoption?
Alors en fait, on appelait à l'adoption avant, on ne le fait plus parce que c'est difficile pour des particuliers de garder un cochon pour une vingtaine d'années, et donc on ne veut plus les changer d'endroit. En revanche, on continue de placer les cochons qu'on ne peut pas prendre au refuge par manque de place.
Donc 20 ans, c'est la durée de vie moyenne d'un cochon?
D'un cochon cochon vietnamien. Et c'est une dizaine d'années pour un cochon d'élevage.
Et vous, Jean-Baptiste Delamo, de votre côté, comment votre route a croisé celle des cochons ?
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par cet animal, mais je crois comme par tous les animaux a priori mal aimés. Mais le cochon me plaisait particulièrement. J'avais une affection pour cet animal et j'ai toujours pensé, dès gamin, que j'aurais un jour un cochon chez moi, que j'aurais un cochon de compagnie.
C'est vrai, ouais, c'était vraiment quelque chose qui était fixé dans votre esprit
et... Oui, j'étais très, très curieux des interactions qui étaient possibles avec eux. Puis avec le temps, j'ai aussi appris à les connaître, à les découvrir différemment et à mieux comprendre leurs besoins aussi.
Ouais, vous dites qu'enfant mal dans votre corps et harcelé, vous êtes pris de passion. C'est aussi dans ce contexte-là que vous avez appris à aimer les cochons ?
Je pense, oui, les cochons et tous les autres animaux que je pouvais voir dans la campagne du sud-ouest de la France, qui font partie de ces animaux mal aimés, les serpents également, etc. C'était des animaux, je crois, qui me touchaient parce que justement, ils étaient aussi victimes d'une forme de stigmatisation ou de rejet.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu des éleveurs dans votre famille également ou pas ?
Alors j'ai découvert, mais très tardivement, après même avoir écrit Règne animal, que mon grand-père, mon arrière-grand-père maternel était éleveur de cochons et boucher, ce que j'ignorais totalement.
Ouais. Et vous ne l'avez pas connu ?
Je ne l'ai pas connu, il y a eu une rupture entre lui et mon grand-père, donc cette histoire, en fait, était complètement passée à la trappe pour moi, je n'en avais jamais entendu parler.
C'est incroyable quand même,
c'est incroyable,
cette histoire. Ouais. Vous qui avez écrit sur une lignée en plus d'éleveur,
complètement fou, ouais.
Que ce soit inscrit aussi dans votre histoire. Qui est Frida ? Jean-Baptiste Delamo, s'il vous plaît. Présentation, on l'embrasse d'ailleurs si elle nous écoute.
Frida, c'est une petite truie de type vietnamien, donc dans la catégorie des cochons nains, on va dire, dont je partage maintenant l'existence depuis 2 ans, puisqu'elle est, c'est une petite truie que j'ai sauvée quand elle était porcelée encore, qui était abandonnée.
Mais abandonnée comme ça dans...
C'était des gens qui l'avaient adoptée et qui se sont aperçus très rapidement qu'un cochon, c'était aussi un animal contraignant et qui, du coup, s'en sont séparés. Il y a énormément d'abandon de la part des propriétaires de cochons. Un porcelet, c'est certes charmant, mais c'est aussi un animal qui a des besoins très précis.
On va en parler.
Il faut être en mesure quand même d'assumer la charge que ça représente. Et du coup, je l'ai accueillie chez moi et elle vit avec moi désormais.
Et vous en avez eu d'autres avant, hein, c'est ça, avant Frida ?
C'est ça, avant Frida, j'ai eu John qui m'a conduit à rencontrer justement Caroline.
Ouais.
Tout à fait.
Et vous avez participé aussi à Grand-Groin ?
J'ai été très longtemps membre du conseil d'administration du refuge Grand-Groin et je reste toujours proche de l'association et du refuge, absolument.
On va écouter ensemble un extrait du film Okja de Bong Joon-ho.
Il nous fallait un miracle et nous en avons créé un. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras. Ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût.
Voilà, et c'est 2017 d'ailleurs, la sortie de ce film Okja. On a vu ces dernières semaines les images de ces giga-porcheries qui se multiplient en Chine et qui ressemblent à de gigantesques barres d'immeubles. Qu'est-ce que racontent pour vous, Caroline Dubois, ces fermes verticales qui peuvent abriter des centaines de milliers de cochons aujourd'hui ?
C'est vertigineux. Déjà qu'en France, l'élevage industriel est déjà vertigineux en soi, mais là, ça prend des proportions, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'humains pour être aux manettes de ça. Et vu les conditions d'élevage en France sur des élevages industriels qui seraient déjà plus petits, j'ose pas imaginer le calvaire de ces pauvres cochons à l'intérieur de ces bâtiments.
Jean-Baptiste Delamo, la Chine compterait 200 fermes avec donc ces gigas usine, à la suite de la fièvre porcine d'ailleurs en 2018, c'est la décision du pays de d'ériger justement cette industrie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, c'est terrifiant. Ce sont souvent des fermes avec plusieurs dizaines d'étages, des centaines de milliers de truies enfermées, des fonctionnements quasi intégralement automatisés, donc avec extrêmement peu de salariés, ce qui laisse deviner une déshumanisation totale de l'élevage au premier sens du terme. terme. Et bien évidemment, la question du contrôle vétérinaire est quasiment impossible sur ce type de structure. Et on voit d'ores et déjà, même si ces types de fermes sont relativement récents, l'impact environnemental désastreux que ça a autour de ces villes où elles sont implantées.
Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe justement d'un point de vue écologique ?
Alors, il y a une contamination des sols, l'évacuation des lisiers est éminemment problématique, comme elle l'est chez nous en France, en Bretagne en particulier. Contamination des nappes phréatiques, des cours d'eau, en plus des problèmes d'émanation, en particulier pour les personnes qui vivent à proximité de ces structures, l'air devient irrespirable. On imagine ce que ça doit être à l'intérieur pour les cochons.
Ouais, alors même que ces usines ont été construites sous couvert de préserver la santé, puisque c'était pour contrer certains virus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est dans l'idée de préserver finalement les intérêts humains, encore une fois. Je crois que c'est aussi le cas dans une autre mesure en France avec la législation qui est supposée assurer une forme d'éthique et de bien-être animal dans les élevages intensifs. En réalité, on s'aperçoit que toutes ces questions-là sont quasiment inapplicables à la réalité du terrain et que ça n'engendre ces systèmes-là. N'engendre que souffrance pour les animaux.
Caroline Dubois, est-ce qu'à votre avis, on pourrait voir arriver en France de telles usines où ce serait inacceptable dans notre pays ? Est-ce qu'il y a encore une limite, à votre avis, qui peut être posée ?
Honnêtement, je pense que ce serait totalement envisageable d'avoir ça en France, puisque de toute façon, il y a peu de contrôle déjà dans les élevages industriels actuels. Donc, sous couvert de pouvoir faire plus de cochons, plus de production, oui, je pense qu'on pourrait voir ça arriver. Maintenant, c'est le cas. Il y a pas mal d'élevages industriels qui ont plus de 1000 truies dans les élevages eux-mêmes, de gros élevages industriels. Mais c'est vraiment dommageable pour tout le monde. C'est vraiment pas la marche à suivre pour les animaux.
Là, on parle de 200 000 animaux dans un même immeuble.
Je pense que même on peut même pas l'imaginer. Les chiffres sont tellement grands qu'en fait, ça limite notre imagination. Quoi.
Ouais, la Chine, qui est le premier producteur mondial de porc, avec une demande qui ne fait que croître dans le monde. Donc, ça raconte aussi finalement nos modes de production et nos modes de consommation, Jean-Baptiste Delamo.
Oui, bien sûr, parce qu'on voudrait penser que la consommation de viande porcine a tendance à baisser. En réalité, c'est peut-être propre aux pays occidentaux parce que, mais bon, en contrepartie, on va voir que par exemple,
on va sur la volaille.
Augmente,
on se dirige sur la volaille. Ouais.
Mais de façon globale et mondiale, en revanche, effectivement, la consommation de porc est en augmentation exponentielle. Ouais.
Ouais. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler évidemment des conditions aujourd'hui de cet animal particulièrement maltraité autour de nous. Et puis quand même, il y a plein de choses à dire sur les capacités cognitives, l'intelligence, la sensibilité des cochons. Et puis on attend vos messages sur la page de La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans leur salle de maternité, ces dames cochons ont plein de choses à se dire. Pendant des mois, Céline Tallet a enregistré toutes leurs conversations.
Donc vous voyez, là, on entend des grognements qui sont de plus en plus longs. Ça veut dire que l'émotion, elle tend vers le négatif. Puis si on continue d'écouter le même animal, on entend quelque chose de plus aigu. Donc là, ça vient vers des couinements qui sont aussi signes d'une plus forte excitation et de quelque chose de plus négatif. Là, c'est un cochon qu'on avait mis tout seul. Et donc les cochons, c'est des animaux sociaux, ils aiment être en groupe. Tout seul, ça leur plaît pas trop.
Décrypter la communication des cochons, c'est ce que fait donc Céline Tallet, et qui a travaillé pour INRAE sur les vocalisations en particulier des cochons. On parle de cet animal avec vous, Caroline Dubois, cofondatrice du refuge Groin Groin, et Jean-Baptiste Delamo, écrivain. Est-ce que vous avez un dialogue avec Frida, Jean-Baptiste Delamo ? Est-ce que vous arrivez à vous comprendre ?
Absolument, un dialogue qui passe certes à la fois par des vocalises, et les cochons en ont un certain nombre pour se faire comprendre, mais aussi par un langage physique qu'on apprend très rapidement à décrypter en vivant au quotidien.
Des exemples en tête ou pas pour qu'on puisse comprendre?
On voit très rapidement quand un cochon est en confiance, qu'il est heureux, où il va battre de la queue comme un chien, frétiller de la queue comme un chien, avoir le groin en l'air, faire des petites vocalises assez brèves et joyeuses, et un cochon qui a peur, qui va être fuyant, qui va essayer d'éviter la présence humaine. Voilà, c'est des signes assez évidents.
Caroline Dubois, quand vous accueillez justement un cochon sauvé par exemple d'un élevage, il y a aussi tout un langage que vous essayez de comprendre pour essayer d'établir son état l'état général ?
Oui, tout à fait. En fait, comme Jean-Baptiste disait, ça passe par les bruits, mais ça passe aussi par le langage corporel. Et puis, au refuge, on a beaucoup de cochons, donc en fait, on a pris l'habitude de décrypter ce langage. Alors évidemment, ce n'est pas des études, hein, c'est vraiment empirique, mais c'est maintenant assez facile de lire les cochons pour nous. Et on doit y faire très attention, parce que quand on doit mettre des cochons ensemble pour la première fois, il y a tout un système hiérarchique qui va se mettre en place, et donc il faut être présent, il faut voir comment les cochons interagissent entre eux, pour être sûr que tout va bien se passer dans le groupe, et c'est très intéressant de voir justement ces langages qu'ils ont entre eux, ces positions, et voilà, et la permission aussi que donnent par exemple des cochons qui seraient un petit peu plus chefs, on va dire, vis-à-vis de leurs congénères, et les limites qu'ils peuvent mettre entre eux, c'est vraiment très très riche.
Alors vous, les cochons que vous recevez, donc on l'a dit, hein, ont vécu avant évidemment des choses assez désagréables pour la plupart, hein, puisqu'ils viennent d'élevages intensifs. Il y a un stress particulier quand ils arrivent dans votre refuge ou pas, que vous percevez bien ?
Oui, tout dépend des histoires, mais vous avez des animaux qui vont vite se remettre de ce qu'ils ont vécu de façon, j'irais, psychique, enfin en tous les cas psychologique, où vous voyez que les animaux vont tout de suite avoir du lien avec vous et être là, et puis des animaux qu'on a du mal à apprivoiser entre guillemets, parce qu'ils gardent vraiment de mauvais souvenirs des humains, et ils ont tendance à appliquer ces mauvais souvenirs à tous les humains qu'ils croisent.
Ouais. Et très souvent, ce sont des animaux fragilisés en raison de la sélection génétique ?
Alors, tout à fait. Ça, c'est vraiment une caractéristique qu'ils ont tous. Ils ont des dizaines de problèmes physiques. En particulier, trop de poids sur leurs pattes. Donc, les pattes ne sont pas assez costauds pour pouvoir supporter toute une vie durant le poids des muscles qui est donc recherché dans la sélection génétique. Vous avez donc des sèmes, c'est des fissures qui se créent sur les sabots, des abcès de pieds qui sont très récurrents, de l'arthrose, de l'arthrite, enfin, vraiment des problèmes locomoteurs énormes. Et je pense que c'est en majorité le plus gros des problèmes qu'on a avec eux vient des problèmes locomoteurs.
Et ça se soigne ou pas ?
Alors très difficilement, c'est des conditions chroniques. On va par exemple soigner un abcès de pied, mais il va revenir. Il faut faire attention, du coup nous on refuge par exemple au sol, donc on est vraiment très attentif au sol. On met des tapis en caoutchouc comme pour les chevaux pour amortir des sols un peu durs, de la litière avec de la paille et des copeaux de bois pour avoir un petit matelas, ce qu'ils n'ont absolument pas en élevage intensif, puisque vraiment l'élevage intensif, c'est du béton avec des ajourés, des caillebotis. Et donc, en fait, ils se coincent les pieds là-dedans. Et quand on sait comment ils ont mal aux pieds, c'est une maltraitance en elle-même, quoi.
Jean-Baptiste Delamo, cet animal, il véhicule plein d'idées, hein, reçues, une sorte de vacuité, de saleté. Comment vous expliquez qu'on comprenne si mal, au fond, cet animal, alors que toutes les études en éthologie montrent une grande sensibilité, une grande intelligence chez le cochon ?
La question est complexe. Je pense que tout d'abord, sur la quasi-totalité de l'histoire que nous avons en commun avec cet animal-là, nous n'avons cherché qu'à le domestiquer en vue de l'exploiter. Ce qui en a fait un animal qu'on a souvent confiné dans des espaces enclos, qu'on a accusé de saleté, alors que les cochons en réalité sont des animaux extrêmement propres.
Pourtant, on a toujours ces images, on les voit dans la boue en train de se prendre des bains.
Alors, c'est une réalité, mais les cochons ne sont pas dotés de glandes sudoripares, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas transpirer. Et en fait, ils se roulent dans la boue pour réguler leur température corporelle et pour se protéger aussi des insectes nuisibles. Absolument pas par saleté.
Ce qui pose problème d'ailleurs dans les élevages où la promiscuité est tellement forte que ça leur pose des problèmes justement pour la transpiration.
Tout à fait. C'est-à-dire que déjà, ces bâtiments, pour la plupart, ne sont pas climatisés. Ils sont très souvent surchauffés en été. Donc, les maladies peuvent s'y développer de manière très rapide. Et puis, la promiscuité, ça entraîne aussi des comportements d'ennui, des comportements agressifs qui fait que ces cochons-là se blessent, en plus des blessures qui peuvent advenir par le contact sur le béton ajouré, sur les caillebotis. Donc, il y a énormément d'infections en élevage. Beaucoup d'animaux ont des abcès, etc. Il y a assez peu d'élevages. Bon, tous les élevages intensifs et industriels sont violents, mais l'élevage porcin en particulier inflige un certain nombre de maltraitance aux animaux. Ouais.
Et donc c'est un animal qu'on n'a pas compris en fait, qui vit à nos côtés depuis assez longtemps.
Tout à fait, vous faites bien de revenir à la question.
On est passé complètement à côté en fait.
Pendant très longtemps, les études qui ont été menées sur l'intelligence des cochons, elles ont été menées à des fins d'enrichissement du milieu, c'est-à-dire de façon à rendre l'élevage encore plus prolifique. Et finalement, c'est assez récent, ça fait quelques décennies que l'éthologie s'intéresse véritablement à l'intelligence des cochons et nous permet de les percevoir différemment.
Caroline Dubois, c'est vrai qu'on manquait jusqu'à maintenant de littérature scientifique sur la question.
Vraiment, tout à fait. Les vétérinaires eux-mêmes, quand on doit faire soigner un cochon pour ce qu'il est, donc pour un individu à part entière, ont du mal, puisqu'en fait, ils ont les réflexes d'élevage, donc ils vont pouvoir soigner une maladie dans un élevage. En revanche, déterminer une maladie par rapport à des symptômes, pour eux, ils n'ont aucune expérience, pas de littérature, et en fait, ils apprennent sur le tas.
Ouais. Et d'ailleurs, si je peux me permettre d'ajouter, c'est depuis que des cochons sont accueillis en refuge, qu'on a pu définir à peu près quelle était leur longévité.
Oui.
Puisque les cochons étant abattus en élevage au bout de 180 jours, on ne savait pas véritablement quelle pouvait être leur longévité, comment est-ce qu'ils pouvaient évoluer dans le temps avec cette croissance extrêmement rapide qui est la leur aujourd'hui par sélection. Donc on a aussi obtenu de nouvelles données grâce au refuge.
Et sur les cochons sauvages, alors, on a des informations un petit peu ou pas? Est-ce qu'on...
En termes d'éthologie?
Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on arrive à les suivre un petit peu ou c'est compliqué
Oui, alors les cochons sauvages, essentiellement, ça va être les sangliers pour l'Europe. Donc, on a quelques éléments qui nous permettent d'avoir des comparaisons. En particulier, on voit que les laits, donc les femelles des sangliers, font beaucoup moins de petits à l'état naturel que les truies aujourd'hui en élevage, qui peuvent faire 15 petits par portée. Il faut savoir qu'on était assez 5 de plus qu'en 1975. Elles faisaient à peu près 10 porcelets par portée. Aujourd'hui, c'est 15, avec tous les troubles que ça peut entraîner pour ces truies.
Dans des conditions qui sont épouvantables, Caroline Dubois, puisque ces truies, elles sont parquées, elles ne bougent pas, elles ne peuvent même pas se retourner, écrasent parfois même leurs petits.
Oui. Elles passent la moitié de leur vie encagées dans des cages qui ont la forme de leur corps. Donc elles peuvent juste s'asseoir, se coucher ou se lever. Et les petits, eux, ont accès aux mamelles par en dessous. Et donc elles passent la moitié de leur vie, sachant qu'au refuge, une truie va aller chercher de la paille pour faire un nid. Elles sont exploratrices à 70% de leur temps et passent à l'exploration. Donc elles vont aller récupérer de la paille, faire des nids, farfouiller le sol. Elles broutent, les cochons broutent. C'est un truc, enfin moi je l'ai appris en le voyant de ma truie. Je l'aurais jamais deviné. Toute la journée au refuge, vous voyez des cochons qui font comme les chevaux ou les vaches, et vous vous dites elles vivent donc, ces truies et ces cochons vivent dans des élevages industriels où il n'y a strictement rien à faire.
Jean-Baptiste, ouais, Lamo.
21% des porcelets meurent en élevage avant l'âge où ils devraient être envoyés à l'abattoir et un quart des truies, ce qui laisse imaginer la somme des pertes.
Castration à vif, dents arrachées, queue coupée, est-ce qu'on peut considérer le cochon comme l'animal le plus maltraité par les humains, Jean-Baptiste Lamo?
Certainement. Sur la question de la castration à vif, ça a été légiféré en 2022. Normalement, elle n'est plus autorisée sans l'intervention d'un vétérinaire et l'application d'un produit analgésique.
Ouais, mais pour les queues aussi, les faits, hein. Ça devrait ne pas se faire. En
dans les faits, c'est impossible. Vous imaginez bien qu'on ne va pas dépêcher un vétérinaire sur un élevage à chaque fois qu'il y a une naissance de porcelet. Donc effectivement, ça fait partie, je crois, des élevages dans lesquels les animaux sont les plus attaqués dans leur intégrité, modifiés physiquement et doivent subir tout au long de leur vie, une série de sévices jusqu'à l'abattoir.
Un qui est sympathique de sévices, ça s'appelle le claquage. Donc c'est une méthode reconnue pour tuer un bébé cochon en élevage industriel. Donc il suffit de prendre le cochon par les pattes arrière et le fracasser contre un mur ou le sol. Et c'est une pratique
très courante. Voilà. Oui, absolument.
Est-ce que, Jean-Baptiste Delamo, quand on arrive à discuter justement avec les propriétaires de ces élevages industriels, est-ce qu'on arrive quand même à pouvoir discuter de la question de la souffrance de l'animal ou pas du tout? C'est une question qui est éludée complètement.
C'est pas évident. Alors bien sûr, ça dépend des éleveurs auxquels on s'adresse. On a certains éleveurs qui se sont adressés au refuge Groingroing parce qu'ils avaient pris conscience de la violence qui est intrinsèque véritablement à ce système d'élevage et qui ont demandé au refuge d'accueillir leurs cochons parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de faire partie de ce système-là. J'ai aussi rencontré un certain nombre d'éleveurs qui étaient dans des élevages intensifs et qui, je crois, avaient mis une telle distance entre eux et l'animal qu'ils ne voyaient même plus où était le problème de cette violence quotidienne et qui est encore une fois systémique.
Ouais. Et nous, en tant que consommateurs, alors comment se fait-il que nous ignorions au fond, alors même que nous voyons des images, celles de L214, par exemple, dans les abattoirs où les caméras arrivent à s'introduire, pourquoi est-ce que quand on consomme justement de ces animaux-là, on oublie ce qui se passe derrière les murs des abattoirs?
Il y a cette question de la dissonance cognitive, je crois, qui fait que nous avons du mal tout de même à établir le lien entre ce que nous avons dans l'assiette et l'animal, même si aujourd'hui, je trouve que ça devient de plus en plus difficile d'avancer cet argument-là, parce que nous avons vu les vidéos, elles circulent largement, je pense que tous les consommateurs sont aujourd'hui informés. Il y a une thèse qui me semble assez intéressante, même si elle est aussi en partie désespérée, c'est celle de Florence Burga, développée dans l'Humanité carnivore, où elle explique que probablement nous continuons continuons, même en sachant d'où vient la viande, de consommer la chair animale, parce que c'est une façon pour nous de garder une supériorité sur l'animal.
Allez, rejoignez-nous pour discuter cochon sur cette Terre au Carré. Si vous avez des messages, des témoignages, des questions pour nos invités, franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Vous avez, avec un cochon, un contact intellectuel. Vous n'êtes pas forcément dans ses papiers, vous n'êtes pas forcément son amie qu'elle adore et qu'elle respecte, mais elle est d'une telle intelligence qu'elle sait tout. Elle repère tout, elle voit tout, elle entend tout, elle est au courant de tout. Voilà Zoé, le personnage essentiel de la ferme. Elle est en surpoids car la vie lui est douce. Patronne, elle ne fait que ce qu'elle veut. Forte en caractère, elle n'apprécie pas la controverse. Voilà ce que le petit poème que j'écris au sujet de cette délicieuse cochonne, la cochonne de ma vie.
Voilà, c'est la voix de Joël Moine en 2016 dans une émission de France 3 Provence qui s'appelle Fou d'animaux et qui parle donc de Zoé, cette cochonne de 300 kilos qui vivait en liberté dans la cour de sa ferme et qui savait même, paraît-il, ouvrir les portes de voiture avec son groin. Jean-Baptiste Delameau et
on,
Caroline.
On le croit.
Oui, oui, totalement.
C'est
totalement,
vrai, vous l'observez ça chez, chez vos cochons?
Évidemment, ils ont très vite repéré le frigo ou l'endroit où vous avez la nourriture.
Ouais, les tiroirs.
Ils arrivent à ouvrir les portes, etc. Bien sûr.
Bon, est-ce que vous avez un contact intellectuel avec Frida, votre truie?
J'ai un contact intellectuel et poétique avec Frida, parce que bien évidemment, le contact avec ces animaux, c'est aussi une façon de se mettre à leur portée, de percevoir le monde différemment. Ce dont on a pu s'apercevoir en les côtoyant, que ce soit au refuge ou de manière plus individuelle, c'est que chaque cochon a une identité propre, une personnalité, et qu'ils ont aussi, comme le laisse deviner le témoignage de ce monsieur, les défauts de leur intelligence. Ils sont caractériels, ils ont leur tête, ils savent vous jouer des tours, il y a des matins où ils font la gueule, il y en a d'autres où ils sont meilleurs. Oui, bien sûr.
Ils sont têtus.
Caroline
Dubois. Têtus, vraiment, vraiment, on a vraiment des personnages au refuge, donc c'est assez rigolo. On a des cochons très joueurs, des cochons qui sont absolument grincheux, et d'ailleurs on les adore, parce que c'est chouette de pouvoir voir évoluer ces animaux sans avoir vraiment une proximité avec eux. Ils ont vraiment des personnalités différentes et c'est au quotidien assez troublant.
Et ce sont des animaux sociaux, c'est pas du tout des animaux solitaires.
Ils ont besoin de vivre à plusieurs pour être épanouis et pour se sentir bien dans leur basket.
Ils ont des affinités entre eux, il y a des amitiés entre cochons. Et
au refuge, on a la chance d'avoir des familles qu'on a été sauvées et qu'on n'a pas du tout séparées. Ouais. Et donc, on a des familles qui vivent ensemble dans un enclos un peu plus grand avec d'autres individus. Vous retrouvez la fratrie dormant les uns contre les autres tout le long de leur vie, totalement.
Et Jean-Baptiste Delameau, est-ce que Frida supporte la controverse ou pas du tout alors?
Elle n'aime pas trop qu'on lui oppose une forme d'autorité. Ça, c'est sûr que c'est aussi la reine de la maison.
Ouais.
Et pour revenir sur cette question des interactions entre cochons, peut-être que Caroline peut en dire quelque chose, mais le refuge avait accueilli une truie aveugle qui a été guidée pendant de longues années par un ami cochon.
C'est ça, on avait Pompon et Eston, et Pompon était aveugle, donc c'était une truie basque, et elle suivait Eston, lui servait de poisson pilote.
C'était son guide.
Son guide. Ils étaient tout le temps ensemble, Vraiment, c'était incroyable. Et il a tellement bien guidé que Pompon a repéré le refuge sans jamais cogner dans quoi que ce soit. Elle arrivait vraiment à se débrouiller parfaitement bien dans le refuge.
Comment est-ce qu'on peut vivre avec un cochon? Parce que élever un cochon, c'est pas simple. Vous l'avez dit en début d'émission, il y a peut-être tout de suite des précisions à apporter sur cette question-là.
En fait, il faut se renseigner à l'avance, il faut savoir de quoi ils ont besoin. Et donc, sur le site du refuge, vous pouvez trouver exactement toutes les informations qui permettent de vivre correctement avec un cochon. Il y a 2-3 règles à respecter, être plus têtu qu'eux, et puis avoir un environnement qui leur permette de pouvoir subvenir à leurs besoins.
Oui. Donc évidemment, une maison avec un jardin, inutile d'avoir un cochon en appartement, ça n'aurait absolument aucun sens.
C'est ça, plutôt qu'un jardin, un champ miné, on va dire, puisqu'en fait, ils retournent la terre et font des trous.
Champ miné?
Oui, en fait, ils peuvent faire un trou d'un mètre cube en à peu près 2 heures, je pense. Jean-Baptiste pourra aussi le dire, mais voilà. Il faut de l'herbe, parce qu'ils aiment brouter, ils aiment avoir leurs activités, et il faut surtout des compagnons cochons pour qu'ils soient heureux.
Ah oui, donc en plus, il ne faut pas en avoir qu'un seul.
Effectivement, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Et ils ne s'entendent pas très bien avec les chiens, il communique très mal. Oui. Donc bébé, ça va, mais adulte, il y a vraiment
donc,
des bagarres.
Donc Jean-Baptiste Delamo, vous êtes le contre-exemple, puisque vous avez 4 chiens et un seul cochon
et
à la maison.
Cochon, mais ce que je peux rajouter, c'est que c'est important avant tout de pouvoir lui offrir un endroit sécurisé, d'avoir un enclos fermé qui permette justement de séparer chien, cochon, et ça permet justement voilà, de les garder, de les sécuriser, ce qui est souvent ce qui fait défaut en fait aux gens qui en adoptent.
Il y a cette loi du 16 février 2015 qui a fait des animaux des êtres vivants doués de sensibilité. Est-ce que cette loi a amélioré la vie des cochons dans les élevages, Jean-Baptiste Delamo, franchement?
Malheureusement pas.
Est-ce, tout comme les vidéos d'ailleurs de L214 montrant la souffrance animale, est-ce que ça a amélioré la condition de vie des animaux?
Alors je pense que déjà ces vidéos, elles ont eu pour intérêt de permettre aux consommateurs de prendre conscience de la réalité de l'élevage et aux industriels aussi de les mettre face à leurs responsabilités. Parce que certes, le changement de législation en 2015 a mis en lumière la sensibilité des animaux, mais ça a surtout permis de définir une certaine législation qui devait encadrer la question du bien-être animal en élevage. Ouais. Malheureusement, c'est très difficilement applicable dans la réalité de l'élevage industriel.
Qu'est-ce que vous préconisez, vous, aujourd'hui? C'est quoi votre mot, finalement, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des cochons? C'est, bah, évidemment, j'imagine, d'arrêter de les manger.
Bien évidemment.
Mais sans aller forcément jusque-là pour
avant
ceux
tout,
qui.
Je pense qu'il faut qu'on soit capable de considérer les cochons en fonction de leurs propres intérêts et non pas des leurs. Et à partir du moment où on considérera les animaux selon leurs propres intérêts, je pense que ça redéfinira complètement notre rapport avec les animaux, avec le vivant de manière générale, et bien évidemment avec les animaux en élevage.
Et ces vidéos, elles ont permis aussi, vous le dites, d'être la voix des cochons, ce qui déjà aussi est une façon de les visibiliser.
Oui, elles ont révélé un certain nombre de pratiques quotidiennes et inhérentes à l'élevage porcin qui étaient méconnues, voire totalement inconnues de la plupart du grand public.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs et auditrices. Des questions sur les fermes-usines. Baptiste demande 200 000 cochons, c'est absolument improbable. Est-ce que cette viande chinoise arrive en France? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que vous le savez, ça?
Je le sais pas.
C'est une bonne question. Je n'ai pas de chiffres à ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on estime à peu près aujourd'hui à 6 milliards le nombre de cochons tués dans le monde.
Oui.
Et bien évidemment, cette viande aussi voyage. Alors, il faudrait interroger les économistes pour savoir exactement dans quelle mesure est-ce qu'elle est importée en Europe.
Oui.
Mais c'est une vraie question.
Stéphanie dit, est-ce que vous pourriez redire que les cochons sont des animaux très propres? Je ne traite plus jamais mes fils de porc depuis que j'ai rencontré des cochons bien traités dans une ferme bio du Lot, bien plus propre que mes rejetons. Stéphanie.
Tout à fait. Super. Ils sont vraiment très propres d'instinct, un petit peu comme un chat. Donc, si vous les laissez enfermer dans un box, ils vont aller faire leurs excréments à l'opposé complet de là où se trouve leur repas ou leur gamelle.
Bertrand nous dit, comment mieux consommer sans forcément devenir végétarien ou vegan? Y a-t-il des labels de bien-traitance animale, Jean-Baptiste Elamo?
Certains labels voudraient vous faire penser que oui, mais malheureusement, et encore une fois, il faut se référer aux vidéos montrées par les associations, quel que soit le label utilisé, on s'aperçoit que la violence est intrinsèque même à l'élevage. Mmh. Et aujourd'hui, je crois, surtout en termes de produits issus de l'élevage porcin, on trouve de nombreuses alternatives végétariennes et végétaliennes qui permettent vraiment de remplacer très facilement ce type de viande.
Charlotte nous écrit depuis... Pardon, Caroline Dubois.
Je voulais juste préciser qu'en fait, c'est 95% des cochons qui sont élevés en élevage industriel.
Oui.
Donc on n'a pas le choix, on est... Enfin, voilà.
On passe forcément par la maltraitance, quasiment.
Hein.
Charlotte, pardon, de Munich, quand on me demande surprise si je ne mange plus de porc pour des raisons religieuses, et depuis quand, je réponds simplement 2017, règne animal. Merci, dit-elle à Jean-Baptiste Delamo, pour ce roman puissant qui a changé ma vie. Et ça a été le cas de beaucoup de gens, j'imagine, qui ont témoigné.
Oui, j'avoue que c'était pas mon objectif, je comptais pas rendre les gens végétariens avec ce texte-là, mais s'il a eu cet effet collatéral, je ne peux bien évidemment que m'en réjouir.
Mireille nous dit avoir un ovni du cinéma documentaire Cochon qui s'en dédie, un film de Jean-Louis Le Tacon, sur un jeune producteur de porc en Bretagne dans les années 70, édifiant sur le sinistre avenir de cette activité.
Superbe documentaire qui, je crois, est disponible en intégralité sur YouTube.
Ouais, Manuel nous dit, j'ai moi-même une cochonne babette qui a été récupérée par une amie des mains de deux idiots ivres qui jouaient avec dans un parc. Elle hurlait et sur menace de la police, ils l'ont laissée tomber. J'ai babette depuis 2019, elle connaît son prénom, bien sûr, vient vers moi en remontant. moment la queue se laisse tomber sur le côté pour un gros câlin du bidon. Je la badigeonne d'huile de coco et d'aloe vera.
Pour la peau sèche, tout à fait.
Bon, car sa peau est sèche, mais elle a confiance en moi. Par contre, un homme entre dans l'enclos comme moi, elle le craint. Le refuge Groingroin a été d'un grand secours quand elle est arrivée dans ma vie. Mais voilà, quelqu'un qui a...
Et bon, on est ravis d'avoir pu aider.
Est-ce qu'on peut vous aider, justement, chez Groingroin?
Alors oui, tout à fait. On peut
on peut parrainer
nous aider.
Des animaux.
Tout à fait, on peut parrainer des animaux. Donc vous pouvez devenir le parrain de Nana la truie aveugle.
C'est
vous
ça.
Pouvez, tout à fait. Et vous pouvez aussi faire du bénévolat pour Groingroin. Si ça vous dit, vous pouvez nous contacter pour faire du bénévolat.
Et on peut passer par votre site internet.
Tout hein. à fait.
Il y a toutes les infos. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Caroline Dubois, Jean-Baptiste Delameau. On peut lire Règne Animal, prix Inter quand même, prix du livre Inter en 2017. Merci beaucoup pour votre venue au micro de la Terre au Carré. Merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier. À bientôt.